Première épître de Jean. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, et la vie a été manifestée, et nous avons vu et nous déclarons et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit accomplie. Et c'est ici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, savoir que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui aucune ténèbre. Si nous disons que nous avons communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, et lui est la propitiation pour nos péchés, et non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Et par ceci, nous savons que nous le connaissons, savoir si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais quiconque garde sa parole, en lui l'amour de Dieu est véritablement consommé. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit demeurer en lui, doit lui-même aussi marcher comme lui a marché. Bien-aimés, je ne vous écris pas un commandement nouveau, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Le commandement ancien est la parole que vous avez entendue. Encore une fois, je vous écris un commandement nouveau, ce qui est vrai en lui et en vous, parce que les ténèbres s'en vont et que la vraie lumière vit déjà. Celui qui dit être dans la lumière et qui hait son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a point en lui d'occasion de chute. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres et il marche dans les ténèbres. Et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés par son nom. Je vous écris, père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le méchant. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le père. Je vous ai écrit, père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le méchant. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais est du monde. Et le monde s'en va, et sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'Antichrist vient, maintenant aussi il y a plusieurs Antichrists, par quoi nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils fussent demeurés avec nous. Mais c'est afin qu'ils fussent manifestés comme n'étant pas donc aucun des nôtres. Et vous, vous avez l'onction de la part du Saint, et vous connaissez toutes choses. Je ne vous ai pas écrit parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. qui est le menteur, sinon celui qui dit que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Celui et quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Et celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Pour vous, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Chapitre 3, verset 7. Enfant, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme lui est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car dès le commencement, le diable pêche. Car c'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il détruisit les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Par ceci seront rendus manifestes les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et celui qui n'aime pas son frère. C'est ici le message que vous avez entendu dès le commencement, savoir que nous nous aimions l'un l'autre, non comme Caïn était du méchant et tua son frère. Et pour quelle raison le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Au chapitre 4, verset 17. Chapitre 4, verset 17. En ceci est consommé l'amour avec nous, afin que nous ayons toute assurance au jour du jugement. C'est que comme il est lui, nous sommes nous aussi dans ce monde, c'est-à-dire déjà. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte. Verset 19, nous l'aimons parce que lui nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, il est menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit comment peut-il aimer Dieu qu'il ne l'aime pas. Et nous avons ce commandement de sa part, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Chapitre 5 encore. Quiconque croit que Jésus est Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui a engendré aime aussi celui qui est engendré de Dieu. Par ceci nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, c'est quand nous aimons Dieu, et que nous gardons ses commandements. Car c'est ici l'amour de Dieu que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui qui est venu par l'eau et par le sang, Jésus-Christ, non seulement dans la puissance de l'eau, mais dans la puissance de l'eau et du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité, car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit et l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord pour un même témoignage. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car c'est ici le témoignage de Dieu qu'il a rendu au sujet de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage au-dedans de lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu l'a fait menteur, car il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Et c'est ici le témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même et le méchant ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît dans le méchant. Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné une intelligence afin que nous connaissions le véritable. Et nous sommes dans le véritable, c'est-à-dire savoir dans son Fils Jésus-Christ. Lui est Dieu véritable et la vie éternelle. Enfant, gardez-vous des idoles. Une remarque souvent faite, c'est que Paul nous présente la position du chrétien en Christ. Jean parle de la vie, la nature. Il y a dans les écrits de Jean une beauté, un charme, une profondeur particulier. que l'on sent à la lecture. La vie éternelle a été manifestée en Christ. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Celui qui a Christ a la vie éternelle promise avant les temps des siècles. Cela est au-dessus des dispensations. Les saints de l'Ancien Testament ont la même vie, il n'y a pas de sorte de vie éternelle. La relation est différente, mais la vie est la même. Tous les croyants avaient cette vie, n'en ayant pas la conscience comme nous l'avons, mais je ne m'arrête pas sur ce point. Et nous entrons dans notre sujet tout de suite. Il est parlé du commencement, c'est le commencement du christianisme, c'est-à-dire l'apparition de Christ sur la terre. Au commencement. Si nous voulons un témoignage qui corresponde, rendre un témoignage qui corresponde à la pensée de Dieu, il nous faut partir du commencement, y revenir et y rester, toujours. Au commencement. Cette apparition de Christ, Dieu manifesté en chair, que l'on ne cherche pas à percer ce mystère. La connaissance des choses de Dieu, encore je désire la répéter parce que cela se montre utile. La connaissance des choses de Dieu ne se fait encore une fois jamais par un effort de la pensée. Jamais. Il faut bannir cela. Et il faut aider aux jeunes à cet égard pour qu'ils ne s'épuisent pas en vains efforts. Si nous, les choses de Dieu sur la vie éternelle et autres sujets pouvaient se percevoir par un effort de la pensée, eh bien cela nous mettrait au-dessus de Dieu ou au moins au niveau de Dieu. Pour sonder, mesurer, nous mesurons avec nos esprits, nous étudions avec nos esprits des choses qui sont inférieures à notre esprit. C'est là le caractère de la connaissance humaine. Elle est le fruit d'un effort mental. Et tout cela dans quelques domaines, que ce soit le domaine le plus élevé, si vous voulez, si l'on veut, le domaine philosophique, parce que c'est tout de même davantage au-dessus de la matière. Il est impossible d'avoir une issue. Impossible. Nous n'avons autre chose à faire qu'à en parler, mais nous le disons en passant, que le Seigneur garde ceux qui ne le connaîtraient pas encore de passer leur vie à essayer, comme nous le disons l'autre jour, à essayer tous les chemins, sachant, entendant qu'il y a un chemin qui est le bon, essayer tous ceux qui ne conduisent à rien. On peut passer sa vie à cela, et la perdre. Dieu se révèle. Et si Dieu n'était pas capable de se faire connaître sa créature, rien ne pourra faire. Si Dieu n'était pas capable de remplir sa créature d'une certitude, d'un ordre supérieur, d'un ordre divin, n'est-ce pas ? Eh bien, il ne serait pas Dieu. Nous tous qui sommes ici des enfants de Dieu et qui avons le témoignage divin au-dedans de nous-mêmes, le témoignage du Saint-Esprit, nous savons parfaitement que cette certitude n'est en aucune manière le fruit de notre effort, de notre pensée, pas du tout. L'intellectualisme dans le domaine de la foi véritable et de la piété, ne joue aucun rôle. Et il est, la plupart du temps, un obstacle. Que les facultés humaines puissent être employées même à la gloire de Dieu, tout à fait d'accord. À condition qu'il s'agisse d'un chrétien, et en outre même d'un chrétien dépendant, qui se laisse gouverner par la puissance du Saint-Esprit, qui emploiera le vase, car alors c'est le vase, comme nous le disions l'autre jour. Mais le vase et ce que Dieu met dans le vase sont deux choses distinctes. Et ce qui est dans le vase est plus précieux que le vase lui-même. Et c'est la grande affaire. Un don peut être lié à la capacité de l'individu, Et le don est approprié à cette capacité, mais en lui-même, le vase, l'individu lui-même, n'est rien. C'est ce que Dieu met dans le vase et la manière dont il l'emploie. Comme on a dit aussi souvent, un vase de grande capacité peut être utile, mais il faut que Dieu commence par le briser. Et c'est l'expérience qu'on fait toujours à des degrés divers, les croyants fidèles qui craignent Dieu et qui cherchent sa pensée, la vérité. Aucun chrétien n'a la charge de découvrir ce qu'est le chemin chrétien dans ce monde. Dieu s'en occupe. Il a tracé le chemin. Non, pas, nous n'avons pas à le tracer. Il y a un chemin tracé, apprendre à le faire. Voilà ce que l'on peut dire. Dieu s'est donné assez de peine pour placer devant nous le chemin de la bénédiction, pour que nous lui fassions entièrement confiance, et cela n'est pas obtenu par une application personnelle intérieure. C'est un fruit de la grâce de Dieu. Alors on nous dira, qu'est-ce qu'il faut faire? Crier à Dieu. Voilà ce qu'il faut faire. Et demander à Dieu qu'il donne ce que lui peut seul donner. Qu'il fasse ce que lui tout seul peut faire. Et tous les théologiens du monde, et tous les chrétiens du monde, et tous les apôtres du monde ne pourraient pas faire dans une âme ce que Dieu peut faire en un instant. Laissons à Dieu sa gloire, sans en prendre un seul rayon. Nous n'avons pas le droit. Comme la règle des quantités de questions d'un seul coup. Voilà l'apparition de Christ, Dieu manifesté en chair. Je n'inciterai pas sur la nécessité qu'il y a eu pour lui, non seulement de marcher comme homme ici-bas et de manifester cette lumière, mais d'aller à l'œuvre de la croix sans laquelle rien n'était impossible. Ces questions-ci ont une place continuelle, en particulier dans les réunions de culte, et devraient être toujours rappelées, même sobrement, mais toujours rappelées, parce que c'est là le cœur de toute la vérité révélée. L'apôtre avait vu Jésus, il en parle avec soin, sous des déclarations que nous avons là, n'est-ce pas, il y a des réponses, dans bien plusieurs de ces déclarations, il y a des réponses à des attaques qui étaient faites à l'époque à l'égard du christianisme, n'est-ce pas, et en particulier, pourquoi il est tellement insisté que Jésus est venu en chair, n'est-ce pas, en chair, il a eu part au sang et à la chair. Il est venu en chair, nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nos mains l'ont touché. C'est parce qu'il y avait des faux docteurs qui déjà, inspirés par des païens, n'est-ce pas, voulaient faire croire que Dieu ne pouvait pas venir prendre un corps parce que la matière est une chose mauvaise, que c'était de déshonorer Dieu que de laisser croire qu'il pouvait venir ici-bas dans un corps. Alors, le Saint-Esprit, dans pas mal de ses déclarations aussi formelles, saisissantes et belles de cette épître, donne là des réponses à des questions que nous ne savons que nous, qui sont sous-entendues. Mais je passe encore sur ce point. Mais voilà, Jésus est venu en chair, semblable à nous à part le péché. C'était un homme, nous aurions vu là, un homme avec un maintien très modeste et qui prenait la dernière place, qui n'avait aucun ornement humain. Nous voyons, c'était le plus pauvre, n'est-ce pas, un homme alors dont la gloire morale était faite, pour ceux qui avaient des yeux pour le voir, était faite de douceur, de sainteté, de soumission, n'est-ce pas, d'esprit d'obéissance, de grâce, de vérité. Il a été le témoin fidèle, comme nous trouvons au début de l'Apocalypse, et le témoin fidèle. Mais nous passons. Ce que nous avons vu, nous vous l'annonçons, afin que vous ayez communion avec nous les apôtres, que vous à qui nous annonçons cela, que nous avons vu et touché, vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit accomplie. Ah, voilà le christianisme du bonheur, n'est-ce pas, cher Nadé? On le cherche. Et nous pouvons nous traiter plus d'une fois de très justes critiques, parce que nous ne nous manifestons pas dans notre christianisme pratique et tous les jours, nous ne manifestons pas assez sûrement que nous avons trouvé le vrai bonheur, bonheur solennel, bonheur indicible, inépuisable, insondable. Nous l'avons trouvé afin que votre joie soit accomplie. Nous avons communion avec le Père, n'est-ce pas, nous avons vu cela, et avec son Fils Jésus-Christ. Et les communion, que vous ayez communion avec nous, et un peu plus loin, nous communions les uns avec les autres. Ah, chers amis, quand il y a un frère qui jouit de cette haute relation, car la vie divine qui est donnée à un homme, quand le Saint-Esprit y produit cette vie, qu'il scelle ensuite, n'est-ce pas, quand la vie divine est dans un homme, cette vie n'est pas laissée dans l'isolement. Cette vie-là, elle est rattachée à la source de la vie, qui est Dieu lui-même, qui est Christ lui-même. Et immédiatement, dès qu'il est parlé de cette vie, il est parlé de communion. Celui qui a la vie éternelle n'est pas seul à l'avoir, il y en a d'autres. Et d'abord, il y a d'autres croyants, et il y a là, entre ceux qui ont cette vie, une communion, c'est-à-dire des liens réels, vivants, qui n'existent pas entre les autres hommes, ne peuvent pas exister chez les autres, ni entre un chrétien et entre un inconverti. Et voilà pourquoi y a-t-il communion entre les ténèbres et la lumière, bien sûr que non, et voilà pourquoi le chrétien, inévitablement, doit être séparé, non pas parce qu'il en a un ordre, il reçoit pour cela un ordre formel et extérieur, mais parce qu'il a en lui le sentiment qu'il ne peut pas aller avec les ténèbres, il ne peut pas. Un chrétien en bon état ne peut pas aller avec les ténèbres. Il est en bon état, il n'ira pas au cinéma, il ne peut pas y aller, on n'a pas besoin de lui mettre une barricade pour l'empêcher d'y aller. Il n'en a pas besoin. Cette pensée, il produit en lui, sans aucun sentiment de condamnation envers qui que ce soit, produit une répulsion en lui, et c'est une sorte, c'est instinctif, c'est un effet de la nature divine. Ah, n'oublions pas cela, chers jeunes croyants et nous tous. Rien ne remplace, évidemment, cette présence intérieure dans le chrétien de cette vie divine, et puis le Saint-Esprit qui est là aussi. C'est divin. Nous avons quelque chose de divin, c'est évident, que nous restons des créatures, mais comme on l'a souvent dit, le chrétien, Dieu l'a élevé au-dessus de la créature. Il a quelque chose qui est au-dessus de la créature. Mais nous restons des créatures, nous ne participons pas à la déité de Christ. Ne pensons jamais cela. Et nous sommes très heureux, très heureux, humiliés et reconnaissants d'être amenés dans cette position où nous pouvons avoir une joie accomplie dans la communion avec le Père, ça c'est une relation, une communion avec le Fils et communion les uns avec les autres. Ah, si l'Église avait réalisé cela, il est évident que les choses à la surface de la terre, en tout cas dans la sphère où l'Église spécialement avait à rendre témoignage, les choses auraient été changées sûrement. Il est temps de nous saisir, chers amis. Il ne faut pas attendre à plus tard pour dire « revenons à ce qui est dès le commencement ». Nos conducteurs de Mancier, ils sont revenus, non pas seulement dans la lettre, ni non seulement dans la doctrine, mais dans la réalité morale vivante, n'est-ce pas ? Et c'est cela qui compte. Toujours. C'est le terme de tous les travaux de Dieu dans un âme et dans l'Église. Quand les saints ont cette joie accomplie dans la communion avec le Père et avec le Fils, et s'ils étaient assez fidèles pour la réaliser, ils n'auraient jamais besoin d'une seule exhortation. Pas besoin. Ce n'est pas la peine. Nous n'en aurons pas dans le ciel. Et le ciel nous est offert sur la terre. Comme la parole de Dieu était extraordinaire, évidemment, n'est-ce pas, et je pense ici à la jeunesse, évidemment, ces considérations, en général, ces pensées ne sont pas saisies et goûtées dès le jour de la conversion. Mais si un jeune croyant authentiquement converti, quelque indécis qu'il puisse même paraître en étant, s'il recherche le Seigneur, marche avec lui pour son propre compte, car chacun de nous a marché avec Dieu comme s'il était seul, et au fond, il doit servir Dieu comme s'il était seul. Est-ce que Dieu ne suffit pas pour nous faire marcher? Est-ce que Dieu ne suffit pas pour nous faire servir, dans quelques conditions que ce soit? Qui faut-il donc? C'est une insulte à faire à Dieu, cela. Les jeunes chrétiens, donc, feront des progrès, nous en dirons un mot, à propos de l'autre page de notre lecture. Notre joie accomplie, une joie sainte, rien n'est là de la nature, n'est-ce pas? La nature a encore une fois relation entre les liens naturels ne jouent pas là. C'est un ordre de choses autres. La mort ne touche en rien cela. Elle touche tout le reste. Elle touche la chair, heureusement, mais elle touche même les liens naturels les plus précieux. Cela, elle n'y fait rien. Et nous sommes déjà dans le ciel, à cause de cela, en Christ. Le message que les apôtres avaient entendu, c'est étonnant, n'est-ce pas, là? Il n'est pas dit, voici le message. Il n'est pas dit que Dieu est amour, que Dieu est lumière. Et il n'y a en lui aucune ténèbre. Quelle admirable déclaration. Dieu est lumière. On nous dira, qu'est-ce que c'est que la lumière? On sait ce que c'est quand elle remplit le cœur. On ne peut pas la définir. Vous ne pouvez pas définir l'amour, c'est impossible à définir. D'abord, d'une manière générale, l'homme est incapable de définir l'essence des choses. Il en définit les caractères extérieurs, les relations extérieures entre les choses, mais l'essence des choses, il ne peut pas la pénétrer jamais. Il ne peut pas expliquer ce que c'est que la douleur. Pourtant, s'il y a une chose à propos de laquelle on a une certitude d'un ordre supérieur sur le plan humain, c'est bien par exemple la douleur. Personne ne peut définir la douleur. On la connaît par ses états. Cet ordre de certitude supérieure aux certitudes ordinaires qu'on trouve dans la science, en faisant des raisonnements, en faisant dans la science expérimentale, en faisant des expériences bien liées entre elles et en tirant des conclusions, c'est un ordre de certitude sans doute, mais l'ordre des certitudes dans les choses de Dieu est tout à fait supérieur. Ceci, nous ne pouvons pas développer trop cela, mais d'une grande importance en particulier par les jeunes, car on sait bien qu'ils sont là, pressés de toutes parts, incités à faire jouer leurs qualités, leurs aptitudes, n'est-ce pas? Et cela n'a rien de surprenant, et nous n'avons pas à leur en vouloir. Le cas échéant, nous pouvons leur dire, sans aller plus loin, en attendant que Dieu leur donne la lumière comme nous l'a donnée, « Mon cher ami, ce chemin-là ne vous conduira à rien. Vous pouvez faire des exploits sur le plan du raisonnement, de la recherche et de la découverte, mais quant à la vérité éternelle, la vérité essentielle touchant l'homme, n'est-ce pas, et Dieu, vous ne trouverez exactement rien du tout. 60 siècles d'histoire sont là pour justifier cela. Et nous n'en avons même pas besoin. Alors nous avons, je voulais dire un mot des paragraphes 6 et 7, un mot. Il n'y a aucune ténèbre, n'est-ce pas, en Dieu? Il était la lumière, je ne peux pas détailler cela. Alors la lumière, c'est ce qui manifeste tout. La lumière met en évidence le mal. Le mal sous toutes ses formes, le mal le plus subtil, n'est-ce pas? Rien ne peut se dissimuler devant la lumière. C'est pourquoi plus un chrétien, un frère ou une sœur marche dans la lumière de Dieu, plus il sent que telle chose, que peut-être l'ensemble des frères et des sœurs qui sont plus mondains ne voient pas, il sent qu'une chose n'est pas compatible avec la présence de Dieu. Il ne peut pas le justifier ni l'imposer à d'autres. C'est en cela que le degré de spiritualité des saints varie de l'un à l'autre, et c'est pourquoi nous avons à prendre garde que si le Seigneur donne dans des assemblées des frères ou des sœurs qui véritablement marchent avec Dieu, ont plus de clarté, de discernement, de spiritualité, nous faisons fausse route si nous n'en tenons pas compte. Et c'est dans cette lumière-là que, pour eux-mêmes, les fidèles séparent avec plus de rigueur et de profondeur ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. Et ils ne prendront pas l'amabilité naturelle, l'effort ou bien voulu ou non, ils ne prendront pas cela pour une manifestation de l'esprit, quand c'est au fond une manifestation de la chair. Et il arrive que les fruits de la chair se ressemblent pas seulement à ceux de l'esprit, mais si nous sommes spirituels, nous ferons la différence. Et cela nous appelle, chers frères et sœurs, à chercher chacun pour son compte, à marcher dans cette lumière de Dieu. Et si nous le faisions, peut-être les 9/10 des questions qui sont soulevées dans les assemblées ne verraient même pas l'eau. En tout cas, un chrétien qui a la lumière sur un point est responsable devant Dieu de marcher selon cette lumière. Oui. Il ne peut pas imposer à d'autres les convictions qui en découlent, mais si Dieu lui a donné cette lumière, il ne sait pas si ce n'est pas parce que, en marchant ou en se comportant, suivant la lumière qu'il a, si Dieu ne servira pas cela pour le bien des autres. Le Seigneur a-t-il fait des concessions à cet égard dans le monde? Jamais, il n'a jamais fait de concessions. Comme homme, il n'en a pas fait, nous parlons de lui comme homme, parce que comme homme, il est notre modèle, il n'a jamais fait de concessions. Il a toujours, n'est-ce pas, tranché en toute douceur, mais avec une netteté absolue, et il a toujours tranché entre ce qui était le vrai et le faux. Dans ce paragraphe, nous avons trois choses, je dis simplement un mot. Verset 7. Si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, il n'est pas dit de marcher selon la lumière, n'est-ce pas? Verset 7. Si nous marchons dans la lumière, c'est pas selon la lumière, c'est pas sous l'effet d'une lumière venant de loin, dans la lumière. Nous pouvons marcher dans la lumière, dans notre travail de tous les jours, dans la lumière, au milieu des autres qui sont inconvertis, nous pouvons avoir le cœur rempli de lumière. Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, lui-même c'est Dieu dans les épîtres de Jean, c'est Dieu et Christ quelquefois confondus, eh bien, comme nous avons communion les uns avec les autres, voilà la condition pour qu'il y ait véritable communion. Vous ne pourrez jamais forcer des frères à avoir la communion entre eux, ou alors ce sera une communion factice, extérieure. Mais la vraie communion entre les saints, elle résulte du fait que chacun se tient dans la lumière. Et elle se réalise sans effort. Par conséquent, nous en revenons toujours à cela, c'est que la pratique de la vie chrétienne dans tous les domaines commence par un exercice moral intérieur. Commence, continue et finit. Tout le reste, c'est de la routine, c'est de l'extérieur, ce sont des vérités, ce n'est pas Dieu. Alors, il n'y a pas de peine d'avoir communion dans la lumière, n'est-ce pas, avec ce dans ces cas-là, entre les uns avec les autres. Il n'y a pas de question, pas de peine. Une question surgit, les frères qui marchent, qui ont le cœur éclairé par la parole de Dieu et le Saint-Esprit, voient clair comme jour. Cela s'est trouvé bien des fois, et d'autres s'opposent, ou d'autres sont indécis, mais dans la lumière, nous ne voyons pas trace d'indécision, et il s'agit de qui? De nous. Nous, les chrétiens, pas des apôtres, tous les chrétiens, n'est-ce pas? Et là, la question de don n'a rien à faire dans l'affaire, rien du tout. C'est la question de l'état de chacun. Nous sommes tous enfants de Dieu, ayant les mêmes privilèges, la même condition intérieure, les mêmes responsabilités. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. C'est simplement l'affirmation. Là, ici, ce n'est pas... Le sang, c'est simplement le rappel ici, la déclaration de la valeur du sang de Christ qui nous permet de réaliser ces privilèges extraordinaires. pour que nous ne perdions pas de vue que cela est le fruit de la valeur du sang de Christ, sang qui est toujours sous le regard de Dieu, pour l'éternité. Ah, chers frères et sœurs, il nous faut aussi veiller à ne pas donner à des jeunes un christianisme au rabais. Ah, je le répète, je l'ai dit ailleurs, pas de christianisme au rabais à la jeunesse. Nous n'avons pas le droit. Nous ne devons pas présenter une vérité, la parole relatée, comme dit Paul. Que nous ayons à être exercés pour que ceux qui ne sont pas convertis, jeunes ou autres, mais particulièrement les jeunes, nous, pour leur présenter ce qui doit être présenté, il faut être exercé toujours, pour tous les services. Qu'aux jeunes chrétiens, nous ne leur présentions pas ce qui convient, leur conviendra quand ils seront des pères, c'est entendu. Mais cela ne veut pas dire que dans la vérité moins profonde que nous présentons à des petits-enfants, ça ne veut pas dire que nous devions sciemment tolérer l'erreur, ou bien un mélange, tolérer quelque chose qui ne supporte pas les ténèbres. Quel que soit notre service, ce doit être la vérité limite de partiellement présentée, mais la vérité pure. C'est de toute importance, surtout dans nos jours, on laisserait croire, mais que finalement, Dieu s'est trompé, il ne nous a pas donné ce qu'il fallait, et que nous sommes obligés de corriger sa Bible, non pas sur le texte même, mais dans l'application pratique, mais c'est abominable. Dieu nous ramènera à la parole. Elle nous jugera au dernier jour. Non pas pour la condamnation, mais pour juger toute notre carrière et tout notre service. Elle jugera au dernier jour. Le monde passera et toutes choses. Même mes paroles ne passeront point. Elle jugera au dernier jour. Si nous sommes moqués d'elle, si nous l'avons simplement négligée, si nous avons pensé qu'on pouvait omettre ceci ou cela, ou si nous avons voulu remplacer par des pensées de notre cru pour nous adapter au temps, eh bien, nous sommes invités ici à revenir à ce qui est dès le commencement, et Dieu ne nous autorise pas de nous arrêter avant cela. Et nous devons cela à tout le monde, et aux jeunes en particulier. Nous ne pouvons pas leur donner un mauvais pain, ou une vérité mélangée. Que Dieu nous en garde. La mission à l'égard des jeunes en particulier, c'est toujours de travailler de la part du Seigneur et avec son aide, lui faisant tout le travail, de mettre ses âmes en relation avec Dieu. Pour la première fois, pour qu'il trouve Dieu. Et ensuite, comme tout ministère, ramener, quand les âmes s'écartent, veiller à ce qu'elles se maintiennent de relation avec Dieu soit assuré. Tous les services se résument à cela. Que nous importe qu'ils aient plus ou moins de connaissances des vérités et des dogmes et des vérités bien classées, si vous voulez. Tant que Dieu n'est pas là, il n'y a rien. Peut-être qu'une illusion, n'est-ce pas ? Et nous risquons de leur laisser l'illusion qu'ils sont un peu plus près de Dieu quand ils savent ainsi des textes, alors que ce n'est pas vrai. Tandis que quand ils ont trouvé Dieu, ils trouveront les textes ensuite, et ils en jouiront. Je ne dis pas que les textes ne soient pas utiles pour amener à Dieu, c'est évident que la présentation de la parole, de l'évangile à un pécheur, de la parole pour l'édification d'un chrétien, c'est évident que c'est ainsi que le progrès se fait. Mais toujours en cherchant ceci, que les âmes soient mises ou remises en relation avec Dieu. Et après, les âmes, au fond, seront satisfaites. On pourrait chercher dans le monde entier, depuis le commencement du monde, une âme qui, étant remplie de Dieu, étant remplie de Christ, ne soit pas heureuse. Introuvable. Introuvable. Et Dieu a permis que nous ayons des exemples très forts. Dans le Nouveau Testament en particulier, vous savez, ce cher apôtre Paul, qui est plus encore utile peut-être par son exemple moral que par tout ce que Dieu nous a donné par lui. En voilà un homme qui était dont le cœur était rempli de Christ, un homme heureux, dans les conditions les plus défavorables. Que les jeunes me disent un peu cela, que nous présentions devant eux un peu ce christianisme merveilleux qui est apparu dans le monde, que nous montrions comment la parole nous le présente, là, dans les fins, que nous développions devant eux de quelle manière ce christianisme ne craint pas de s'abaisser et ne craint pas de mettre de côté tout ce qui, dans le monde, a de la valeur et de la force, et commence par dépouiller ceux dont Dieu se sert de tout cela, les réduire à rien, et les maintenir dans une pauvreté qui surprend quand on ne connaît pas Dieu, mais dont on se rend compte que cet état produit par Dieu ne fait que rehausser la gloire de la vérité et sa puissance, et ne fait que montrer la fidélité des saints et leur joie dans les conditions les plus adverses. Le christianisme n'a pas besoin des éléments du monde. Quels qu'ils soient, ils sont un embarras et un danger. Oh, que le Seigneur fasse sentir cela à tout le monde. Un enfant de 10 ans, c'est la décès. Pourquoi pas? Il y a sûrement eu dans l'histoire, pour ne rien dire de toutes ces personnes qui, dans des périodes troublées, n'ont pas hésité à montrer que le Seigneur était assez puissant pour les rendre supérieurs à la frayeur de la mort, de la hache ou de l'épée. Je passe sur... Nous avons donc trois points, ces versets 7 là, que chacun peut, sur lesquels nous pouvons tous revenir. C'est une épître admirable. Et il ne faudrait pas que personne pense qu'une lecture, une étude, une attentive et laborieuse suffit pour tirer de ces richesses quelque chose de valable, profond, n'est-ce pas, non? Il faut une étude dépendante du Saint-Esprit, la prière, et beaucoup lire la parole, mais en priant beaucoup. Et un très grand obstacle au progrès à cet égard, n'est-ce pas, c'est celui-ci. Un très grand, et qui est plus manifeste de nos jours, dans une mesure au moins, que dans d'autres temps. C'est l'influence de ce qui nous entoure. Nous avons tous fait l'expérience que notre joie en Dieu, en Christ, joie dans la lumière, dans la paix, la force, eh bien, elle peut être ternie par une lecture. Pas mauvaise, n'est-ce pas? Pas mauvaise du tout. Pas mauvaise. Une lecture saine, comme on dirait. Et il faut bien en faire, nous le savons bien, mais il faut être exercé, demander au Seigneur pour que ces lectures indispensables, nous les fassions, ces études, nous les fassions avec lui. Et alors, il peut nous garder, et nous garder dans sa communion, sa paix, sa joie, dans ses contacts avec ces éléments du monde extérieur. Mais les lectures qui ne sont pas indispensables, nous apprenons, n'est-ce pas, enfin, nous avançons dans le chemin chrétien, nous apprenons à les tenir à leur place davantage. Tout le monde aime la lecture et des lectures ou des études qui répondent aux besoins des esprits, lesquels sont très différents d'une personne à l'autre. Mais Dieu répond à tous les besoins de tous les esprits. Et il donne la paix, le contentement aux esprits les plus puissants, n'est-ce pas, aux les plus exigeants, comme nous en avons des témoignages au cours de l'Église par des chrétiens qui étaient dans divers systèmes, d'accord, mais qui ont eu des conversions et des témoignages remarquables. En trouvant après bien des recherches, n'est-ce pas, encore je pense à un homme du siècle dernier qui était très cultivé, qui avait d'autres relations et qui a était chrétien, mais il se complaisait à des relations avec des gens cultivés dans tous les domaines, et il lui a été donné de voir en temps utile que tout cela, comme il le déclare, n'avait fait que nuire à sa force et à sa paix, que tout cela n'était que des citernes crevassées. Je dis cela en me rendant bien compte, n'est-ce pas, que les questions de cet ordre ne se résolvent pas en un jour, qu'il y a normalement progrès, comme nous allons en dire un mot tout à l'heure. Pour ne pas trop prolonger, je passerai sur certains passages. Je voudrais, avant de passer au chapitre 2, dire un mot sur le chapitre 4, ce que nous avons vu au verset 20 et les deux premiers du chapitre 5. D'ailleurs, un mot de cela. C'est une épître admirable. Chapitre 4, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, il est menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Nous avons un commandement, ce mot est caractéristique de l'épître dans l'épître de Jean, c'est quelqu'un aime Dieu qu'il aime son frère, un commandement. La différence entre les commandements de la loi et les commandements dont il est parlé ici est celle-ci. La loi était un commandement extérieur à l'homme, elle s'imposait à l'homme. Elle est inflexible, elle ne change pas, et c'est la vie ou la mort, suivant qu'on la réalise ou non. Personne ne l'a fait, par conséquent, la conclusion est bien facile à tirer. La loi est parfaite, elle n'est pas du tout mise de côté, comme on dit, pas du tout. Elle a été honorée comme elle devait l'être. Christ est mort à la loi, mais il a glorifié Dieu quant à la loi de Dieu, il a parfaitement. Et on a pu même dire que la loi retourne devant le trône de Dieu, parfaitement honorée par l'obéissance de Christ, qui a supporté, n'est-ce pas, qui s'est placé sous la malédiction de la loi. La loi était parfaitement honorée. On parle un peu à la légère de la loi. Mais dans le christianisme, la loi est intérieure. Il y a, Dieu nous donne une vérité, nous fait connaître Christ. Et nous, par exemple, voilà, nous connaissons Christ et nous trouvons le commandement de ne pas aimer le monde. Mais ce commandement n'est pas extérieur. Si nous avons la communion avec le Seigneur, nous avons la lumière dans nos cœurs qui nous fait sentir que nous ne pouvons pas. Nous avons dans notre cœur ce qui correspond parfaitement au commandement exprimé, ce qui était d'ailleurs en Christ et maintenant dans les saints. Le nouvel homme qui est en nous est tout à fait d'accord avec les commandements dont il est parlé ici. Les commandements dont il est parlé ici ne sont que l'expression des manifestations de la nature divine qui était en Christ et qui est dans les saints. Voilà pourquoi les commandements ne sont pas pénibles. Ils correspondent à notre nature. Et c'est le Saint-Esprit qui peut, encore une fois, les produire dans notre nature, puisqu'il est la source de toute puissance. La vie en elle-même n'a pas de puissance, mais c'est le Saint-Esprit qui est la puissance de la vie dans le chrétien. Alors, méditons, je laisse tout cela à la recherche de chacun, méditons bien cette différence entre la loi mosaïque, les 10 commandements, et puis la loi qui est l'expression de ce qu'est la vie divine, ce que Christ a manifesté et ce que nous devons à manifester, ce qui est vrai en lui et en vous, ce qui s'est manifesté en lui, c'est le commandement ancien, ce qui s'est manifesté en nous, c'est le commandement nouveau. Mais dès que nous avons reçu dans nos cœurs la connaissance d'une vérité liée à la nature divine, eh bien, cela devient loi pour nous, et une loi intérieure. Nous ne pouvons pas agir autrement. C'est la loi de la liberté en même temps. je dis encore un mot sur le fait qu'il y a deux traits qui marquent la possession de la vie divine dans les versets. D'abord, la fin du chapitre 4 et 5, je veux dire deux choses. Il est dit, à la fin du 4, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voilà. Bien. Nous comprenons cela. Et d'ailleurs, si l'amour de Dieu remplit notre cœur, nous n'avons aucune peine à aimer notre frère. Cela est un effet tout naturel. Verset 2 du chapitre 5. Voici une riposte. Là, dans cet épître de Jean, il y a souvent des déclarations et des contre-déclarations, n'est-ce pas ? C'est fréquent. Ici, nous avons au chapitre 2, « Parce que nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, c'est quand nous aimons Dieu, et que nous gardons ses commandements. » Si j'aime Dieu, je dois aimer les frères, mais je connais que nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, n'est-ce pas ? Et voilà un indice que nous aimons les enfants de Dieu, c'est quand nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. C'est un verset très important à méditer. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons les frères si nous ne les engageons pas à suivre la vérité de Dieu. Nous n'aimons pas Dieu, et si nous n'aimons pas Dieu par du fait que nous ne suivons pas ses commandements, nous ne pouvons pas aimer les frères. Cela est bien important et à méditer et susceptible de plusieurs applications. Chacun de nous pourra y penser. Les deux sont vrais. Si nous aimons Dieu, nous aimons les frères, et nous ne pouvons pas aimer les frères sans garder les commandements de Dieu, sans garder la parole. Comme le Seigneur dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et supposer qu'un chrétien induise sciemment des personnes en erreur, évidemment, ce n'est pas l'amour. C'est le contraire de l'amour. Je voudrais dire encore un mot sur le chapitre 2, sur deux caractères de la vie divine. Verset 9, celui qui dit est dans la lumière et qui est son frère est dans les ténèbres. Premier caractère, c'est donc l'amour des frères. Et puis, nous avons l'autre caractère, c'est de garder la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu et la justice pratique. Justice pratique. Voilà les deux traits de la vie divine. La justice pratique, l'obéissance à Dieu et l'amour des frères. La justice pratique, c'est le fruit que porte le chrétien qui marche dans l'obéissance à Dieu. Et nous sommes appelés à la réaliser dans notre vie quotidienne. Un chrétien fidèle marche de façon juste aux yeux de Dieu, pas seulement aux yeux des hommes. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les hommes appellent bien et que Dieu appelle mal, et inversement. Ensuite, l'amour des frères. Quand une personne est convertie, elle trouvera son plaisir avec les frères. Elle est portée à les rechercher. Tandis qu'on a vu bien des fois qu'avant que ce travail fût fait, elle les fuit plutôt. D'abord, nous avons tous plus ou moins connu ce dernier état, avant que nous fussions amenés à la connaissance de Dieu. Les frères ou les sœurs, surtout ceux dont la personne trahissait une piété réelle, profonde, et du sérieux, de la gravité, En général, quand on n'est pas converti et qu'on est jeune, on n'est pas porté à aborder de telles personnes. On sent qu'il y a là quelque chose qu'ils ont et qui inspire la crainte. Non que nous ayons à chercher cela, bien entendu. Au contraire, nous avons à aborder la jeunesse et à chercher à la gagner, non pas par de mauvais moyens, mais à la tirer dans la présence de Dieu. Mais c'est instinctif, cela tient à la nature des choses. Une fois que la conversion est réalisée, la même personne trouve son plaisir dans les rapports avec les frères, même si encore elle n'a pas de connaissance. Et enfin, un mot sur les trois âges. Les trois âges qui nous sont décrits dans la suite de ce chapitre, les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Vous allez terminer par là. Les enfants en général sont les enfants de Dieu, mais dès qu'un enfant de 10 ans qui est converti est un enfant de Dieu, aussi bien que l'ancien d'entre nous dans la vie chrétienne. Et il est parlé de trois âges. Et il est écrit, et l'apôtre écrit deux fois à ces trois classes de personnes. Il écrit aux pères, et les deux fois il leur dit les mêmes choses. Les pères, je vous écris parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Quel enseignement pouvons-nous tirer de cela? En voici quelque chose, sans prétendre que je prétende épuiser le sujet. Un père, c'est quelqu'un qui, en général, qui a plus ou moins longtemps marché dans la vie chrétienne. Et c'est quelqu'un qui aura été exercé à jouir de la présence de Dieu, conserver la communion avec le Père et avec le Fils, et aussi avec les frères dans la mesure où c'est possible. Et ce Père arrive à un état de maturité, il fait des progrès, et il arrive à un état où toutes les choses qui ont leur place de même dans la vie, n'est-ce pas, et qui en sauvant une grande place, prennent dans son cœur, dans ses pensées, une place beaucoup plus réduite. Au contraire, les choses qui ne se voient pas, Christ, source de sa joie, de sa communion, de sa fidélité, de sa patience, de son énergie, de son discernement spirituel, Christ remplit davantage cette âme. Il connaît mieux chaque jour la source de sa joie. Il la réalise mieux. Les illusions et les apparences, et même les choses qui attirent dans le monde sans que ce soit du mal, tout cela est mis de côté sans effort. Un père connaît mieux son vrai bonheur et la source de son bonheur. Christ lui suffit. Il pourra continuer à faire sa tâche, mais il y considère toute chose avec un regard beaucoup plus averti, portant sur toute chose une appréciation qui est beaucoup plus celle de Dieu. La vanité de tout lui apparaît d'une façon beaucoup plus évidente. Quelle vanité dans ce monde, n'est-ce pas? Il sent beaucoup mieux qu'en dehors de Christ, n'est-ce pas, sur la terre, pour un croyant, et en général pour un homme, en dehors de Christ, il n'y a rien. Tout le reste est vanité et poursuite du vent. Il y a des choses très légitimes, nous en dirons un mot tout à l'heure, mais le père, quand on a un état spirituel, ça peut très bien être un père de famille, un époux, bien entendu, mais il considère chaque chose à sa place. Quant à l'essentiel de la vie de son âme, les choses célestes le remplissent son cœur. Nous devrions connaître, ceux qui ne sont plus jeunes, cet état d'une façon beaucoup plus courante, moins intermittent. Cela demande de l'exercice, parce qu'on peut avoir été, encore une fois, rempli de joie hier, et puis, faute d'avoir veillé, mais parce qu'on aura laissé la chair agir non pas d'une façon grossière, ou bien les éléments du monde venir attirer l'attention et les pensées ou les affections, alors la joie n'est plus la même, et il faut, alors on peut dire qu'ici, il faut retourner à Gilgal pour éliminer, avec la grâce que Dieu fournit, éliminer les éléments étrangers. La force d'un tel chrétien, c'est la profondeur et la continuité de sa communion avec le Père et avec le Fils. Paul en était là. Et il y en a eu certainement d'autres. Nous parlions d'un chrétien qui était modeste, mais très profond et très doué, qui disait à la fin de sa vie, il n'a pas fait de bruit, j'aurai une seconde vie à vivre, je voudrais la vivre pour Christ. Voilà qui avait fait le tour des choses sans y être entré. Il n'est pas nécessaire que nous éprouvions la vanité de tout pour discerner que c'est vanité. Ce n'est pas du tout nécessaire, parce qu'alors nous serions même obligés quelquefois de prendre contact avec des choses mauvaises, mais pas du tout. La connaissance du vrai bien nous permet de discerner ce qui n'est pas le vrai bien, n'est-ce pas? Dans le monde, n'est-ce pas, il faut être sage quant au bien, sage quant au bien et prudent quant au mal, comme dit l'Épître aux Romains, n'est-ce pas? Simple quant au mal, et dans les gens du monde disent volontiers à la jeunesse, et de nos jours, cela s'enseigne, est devenu presque un enseignement, qu'il faut le laisser faire ses expériences pour qu'elle apprenne à connaître les réalités. Dieu ne parle pas ainsi, même pour des inconvertis, et les proverbes ne parlent pas ainsi. Donc il n'est pas du tout nécessaire, pour en arriver à faire des progrès dans la maturité de l'âme et dans un jugement de Dieu des choses qui se rapprochent de celui de Dieu, il n'est pas du tout nécessaire de prendre contact avec les vanités et les choses, et diverses choses, pas du tout. C'est la connaissance de celui qui est dès le commencement, la connaissance de Christ, la connaissance du ciel, qui nous donne la juste perception de ce qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Les jeunes gens. C'était très intéressant, l'état des jeunes gens. Là, il leur est parlé deux fois. La première fois, vous avez l'un qu'une méchant, au verset 13, et au verset 14, au milieu, il a un assez long développement, n'est-ce pas? Encore une fois, ne pensons pas que les âges là correspondent à des âges, aux âges de l'âge naturel, pas nécessairement. Un chrétien de 80 ans peut très bien terminer sa vie en étant un petit enfant. Et peut-être que cela se rend compte plus d'une fois. Ben, il n'aura pas fait de progrès. Il s'en tiendra au salut de son âme, dit je vais au ciel, mais nous avons autre chose que cela ici. Toute sa vie, il aura été plus ou moins aveuglé par les illusions du monde, par tout ce qui entraîne les inconvertis vers les ténèbres éternelles. De même qu'un père, évidemment, peut-être qu'on ne pourrait pas dire qu'un père puisse arriver à cet état étant encore jeune, mais il n'y a pas non plus d'indication d'âge sur ce point, et peut-être qu'il y a eu on trouverait peut-être des exemples dans l'Écriture de gens qui avaient mûri rapidement, ou dans l'histoire, et qui a un âge encore, un âge peu avancé, était tout à fait prêt, même pour être fidèle, et même jusqu'à la mort. Les jeunes gens. Donc, il peut y avoir des jeunes gens qui ont la cinquantaine ou soixantaine, ou qui sont tels à la fin de leur carrière chrétienne, et encore, s'il en est ainsi, ils ont quand même fait des progrès. Ils ne sont plus à l'état de petits enfants. Ils n'en sont pas plus seulement à être assurés que Dieu est leur Père et qu'ils iront au ciel. Ils ont fait un pas de plus. Et ce pas de plus est caractérisé par des combats et des victoires. Notons bien ici qui, ce sont des victoires. Il ne parlait que de victoires. Vous avez vaincu le méchant, n'est-ce pas? Vaincu le méchant. Donc, nous avons là l'état de jeunes gens, c'est l'état d'âme de ceux qui ont eu affaire à Satan, qui ont eu affaire aux tentations et qui ont remporté la victoire. Ils ont appris ce que c'est que vaincre. Ils ont franchi le stade de petit enfant où on n'en est pas à là où il ne s'agit pas de livrer des victoires. Ils ont franchi ce stade où l'on a affaire à Satan, à la chair, au monde, et avec la parole de Dieu, je ne peux pas détailler, avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit, ils ont eu les yeux ouverts pour voir ce qu'est la chair, ce qu'est le monde, et ils ont eu la force pour surmonter ces puissances qui s'exercent à l'égard de tous les chrétiens, pour les surmonter, ils ont remporté la victoire. Au lieu d'être jetés par terre, comme il peut arriver dans des vies chrétiennes, où plus ou moins tôt un chrétien est emporté par le monde, et jusqu'à la fin de sa carrière, et il mourra ici en apparence comme un homme du monde, sauf que, ayant reçu la vie de Dieu, il ne peut pas la perdre, il ira au ciel, mais il aura été battu à plate couture par les ennemis qu'il aurait dû convaincre au contraire. Ici, au contraire, nous trouvons quelqu'un qui, après le stade de petit enfant, a livré des combats et a été vainqueur. Dieu veille que ce soit le cas de tous les jeunes chrétiens qui sont ici, qui ne reculent pas, qui ne méconnaissent pas les dangers, les puissances auxquelles ils ont affaire. Déjà connaître ses ennemis, c'est déjà un très grand point pour un combattant. Cela ne suffit pas, mais c'est déjà un grand point d'avoir conscience de ce que sont les ennemis. Eh bien, par la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, la prière, beaucoup de prières, des confessions, de la recherche du Seigneur, quand un jeune croyant a tombé sans que personne n'ait tombé, lorsqu'il a fléchi, lorsqu'il a péché d'une manière ou d'une autre, eh bien, qu'il ait affaire au Seigneur pour se confesser, retrouver la communion, et ainsi sa marche devient plus soigneuse, et étant tombé, ayant fait une faute, il se veillera sur lui-même pour ne pas la répéter, et criera au Seigneur pour le préserver de cela, et son chemin se fait ainsi, il devient beaucoup plus sérieux, un chemin fait avec beaucoup plus de précautions, il se méfie de lui, il se méfie du monde, le monde peu à peu se découvre à ses yeux que ce sont vrais jours, que tout le monde est un vaste mensonge, tout un ensemble dont Satan a provoqué l'apparition depuis la chute, n'est-ce pas, et par lequel il séduit les hommes et les entraîne, les occupe et les emmène jusqu'à la mort et à la mort éternelle. Le monde entier gît dans le méchant. Rien ne peut être plus fort, c'est pas les frères qui ont inventé cette phrase, blablabla. Que les jeunes y pensent. Ah, il y a de belles choses. Ah, il y a de la littérature. Ah, il y a de la musique. Mais il faut regarder cela d'un peu près. Que les jeunes aient des expériences à faire et qu'on les encourage à les faire, qu'on veille d'une façon qu'on leur réponde et qu'on leur aide à cet égard sans les brutaliser, mais en les avertissant doucement, et selon que la parole dit, les placer devant la parole, car les jeunes qui sont élevés au contraire de la parole de Dieu, en général, ils regardent à deux fois pour braver ouvertement l'Écriture. Heureusement que même avant qu'ils soient convertis, cette crainte est là, et que Dieu veuille la maintenir, avant qu'il y ait l'élément intérieur que le Saint-Esprit peut faire jouer de la nature divine donnée par lui-même. Tout cela est d'une extrême importance. Les jeunes gens ont appris à combattre, et ils ont appris à vaincre. Voilà les jeunes gens. Et la persévérance dans cet état conduit l'âme à l'état de père. Il est bien évident que si un jeune chrétien, une jeune chrétienne, car c'est pour tout le monde, est exercé avec le Seigneur, eh bien, il apprendra à se connaître, et il apprendra que son caractère peut lui jouer de très vilains tours, n'est-ce pas ? Comme le caractère de Pierre lui a joué de très vilains tours, et pourtant c'était un homme dont on a dit, vous l'auriez vu, vous l'auriez aimé tout de suite. Mais un très bon caractère, et quand il est mis à l'épreuve, il redit son maître, n'est-ce pas ? Et il en est ainsi de la nature, quelle qu'elle soit. Que Dieu nous garde des apparences, que Dieu nous aide, nous donne d'aider aux jeunes, non pas pour leur imposer la vue que nous ont donnée peut-être quelques années d'expérience, mais de leur aider en leur disant à toute affection la douceur et en respectant ces jeunes, n'est-ce pas ? En leur disant, mon cher ami, que Dieu vous garde, mais vous faites erreur. Et alors, il est là, nous avons ce développement. Vous êtes fort, la parole de Dieu habite, demeure en vous. La parole de Dieu habite en vous richement. Voilà, par exemple, un des dangers des lectures des meilleures. Je pense qu'il est incontestable que des chrétiens qui ont mûri, n'est-ce pas, ont dépouillé leur vie de bien des éléments de ce genre. Il y a beaucoup de frères ici, on peut dire tous les frères, et qui aiment la lecture, l'étude, et qui pourraient être humainement très désireux de se plonger dans la lecture des productions d'une génération après l'autre. Mais ils ont appris que tout cela les prive de la présence du Seigneur. Ah, c'est vrai cela, impossible que ce soit autrement. C'est vrai. Qu'il le faille bien, et dans nos professions c'est inévitable, mais en faisant des progrès, nous apprenons à faire une part plus réelle aux nécessités de l'existence et une part plus grande à notre recherche de la communion avec le Seigneur. Et il se pourrait fort bien qu'un chrétien pût être appelé à faire des coupes sombres dans tout son bagage. Et nul ne peut servir de maître. Il se pourrait fort bien qu'il fût appelé à changer d'orientation. Cela, c'est vu. Seulement, cela ne peut pas s'imposer, n'est-ce pas ? Mais cela, c'est vu. Que Dieu garde la jeunesse des mondes et des choses qui sont dans le monde. Cette simplicité et cette précision, en même temps cette plénitude d'enseignement dans cela, les choses qui sont dans le monde. Et nous avons cela, l'amour du monde est opposé à l'amour du Père. Et il est dit dans Jacques, si vous aimez le monde, vous êtes des adultères. Ah, voilà, c'est pas nous qui le disons, c'est comme ça. Du monde et ces choses qui sont dans le monde, les honneurs dans le monde, quand on est jeune, on y croit. Même quand on est jeune chrétien, on y croit. Mais quelques années passent, et si on a eu, inévitablement, à avoir des contacts avec pas mal de personnes, d'une manière ou d'une autre, on s'aperçoit, même sans cela, on s'aperçoit que tout cela est un vaste mensonge. Mais il faut bien que les hommes, on leur donne un idéal, sans quoi ils s'entretueraient en permanence. Et nous savons fort bien que les grands chefs de l'humanité, les grands chefs militaires ou autres, ça n'ignorait pas qu'on peut conduire un homme à obéir jusqu'à la mort pour une récompense honorifique. Ce n'est pas pour rien qu'on a créé les récompenses honorifiques, en particulier dans toutes les armées du monde. C'est pas pour rien. Cela correspond à quelque chose qui est dans la nature de tous. La nature adamique est caractérisée par cela. Il y a des convoitises. Satan ne crée pas la convoitise. Il la crée pas. Mais il lui donne une amorce.
La convoitise est née à la chute, n'est-ce pas? Nous avons cela. La convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Voilà. Dans l'innocence, l'homme aurait... La perfection d'une créature et de l'homme, c'est de jouir de son créateur. Voilà la perfection, jouir de son créateur. Adam aurait pu être éternellement heureux, comme ça. Son bonheur n'eût pas été égal au nôtre, mais c'était ce qui était fait était parfait, c'était parfait. Et alors la convoitise est née, et voilà l'homme qui est devenu un être absolument insatiable depuis ce moment-là. Il a plus eu la présence de Dieu, qui n'était pas comme pour nous, mais enfin Dieu était là et s'occupait de lui, jouissait de la bonté de Dieu. Alors il est devenu un être perdu, sans aucun guide. Bien. Sauf si on peut l'appeler ainsi Satan. Convoitise la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Le jeune homme, par la parole, le jeune homme encore, il vit encore une fois, il n'est pas nécessairement 20 ans, peut en avoir peut-être 40 ou 50, mais sur cette phase-là, il a appris à remporter la victoire. Dieu lui a donné de voir clair quant à ce que sont ses ennemis qui se présentent comme des amis, ainsi que les valeurs du monde, n'est-ce pas, les honneurs, la fortune et tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Tout cela, cela se présente dans un jour très favorable. Et pourquoi? Parce qu'il y a dans notre cœur des convoitises qui correspondent à cela. Que serait l'or sans l'avarice, disait on a dit. S'il n'y avait pas dans notre cœur ce sentiment d'avarice, nous n'estimerions pas plus l'or que les pierres. Que vaudraient les honneurs s'il n'y avait pas en nous l'orgueil? L'orgueil, les honneurs correspondent à cette convoitise qui est dans notre orgueil. L'orgueil de la vie. L'homme est tombé, il se considère comme un dieu, se prend pour un dieu, contre Dieu. Mais nous verrons si tu es Dieu devant celui qui te tue, dit Ézéchiel. Eh bien, chers amis, que le Seigneur nous garde. Qui nous garde non pas seulement de ce qui est grossier, mais de tout ce qui est intérieur. Et c'est là que nous avons le plus de mal. Nous avons, chaque jour, quand nous avons perdu cette joie avec le Seigneur, il faut la rechercher tout de suite, plus vite possible. Il y a une raison à cela. Et que la parole, étudiée avec le secours de l'Esprit Saint, beaucoup de prières, n'est-ce pas, que la parole soit recherchée par la jeunesse, celle qui n'est pas convertie encore. La seule chose à faire pour les inconvertis, c'est de prier pour leur conversion, en les tenant en contact avec la parole, en leur aidant. Mais pour l'autre jeunesse, on serait tenté de dire qu'elle fasse ses expériences avec le Seigneur. C'est vrai en un sens, mais tout de même, ce n'est pas vrai sans mesure. Parce qu'alors, si on prenait tout le mot, cette remarque, on pourrait laisser aller la jeunesse très loin. Il faut quand même l'avertir. L'amour est toujours à la base de tous les services, et d'une façon inséparable de l'amour, la vérité qui est liée à la lumière dans laquelle nous sommes.